Frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous qui ce matin vous joignez à nous, répondant ainsi à l'invitation de Dieu. Oui, c'est le Seigneur qui appelle. Et notre présence est toujours réponse à cet appel. Les circonstances sont telles que nous ne pouvons plus nous réunir en présentiel. Voilà ce qui explique ce culte enregistré. Quoi qu'il en soit, que la grâce, l'amour, la consolation et la paix vous soient données de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Veillez, car votre Seigneur vient bientôt. Telle est l'invitation à la méditation à laquelle le Seigneur nous convie ce matin. Puisque le Seigneur nous a fait la grâce de croire en lui, qu'il daigne recevoir ce chant comme signe de notre reconnaissance et de notre engagement envers lui. Nous chanterons donc « Si Dieu pour nous s'engage », arc-en-ciel 622. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Père, dans l'attente du retour en gloire de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons notre désir, notre soif d'une vie profondément enracinée en toi, nourrie par ton Esprit Saint, fortifiée par lui, renouvelée par lui. Viens donc, Père, Nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, fais œuvre de salut. Poursuis ce que tu as commencé en nous jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, que par ton action, nos vies soient rendues belles et qu'elles te glorifient. Reçois notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 23. Le grand Dieu est redoutable, se révèle très proche et bienveillant envers les siens. Il est le berger, le bon berger. C'est une confession de foi que de le proclamer. Oui, il est notre berger. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum à ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Notre berger mérite notre louange. Il mérite cette louange, et voilà pourquoi je vous invite à chanter le psaume 23, intitulé « Yahweh » dans « J'aime l'Éternel » 970.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai.
Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme, sans cesse et jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. En effet, toi le Créateur du monde visible et invisible, d'un univers si immense et si complexe, où tout a été fait avec sagesse et intelligence, tu t'es rendu proche de ce que tu aimes et tu promets de les conduire, de combler leur existence en donnant sens à la vie des humains. Toi dont l'honneur est de bénir, de rendre heureux, d'enrichir, sois loué et adoré, notre berger. Ô Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le berger conduit son troupeau sur les sentiers de la justice. Écoutons à travers les 10 paroles comment il nous conduit sur le chemin de la vraie vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Autrement dit, sois libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave, à savoir orgueil, ambition, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. En d'autres termes, sois libre vis-à-vis de toutes les images et idoles que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. C'est-à-dire, cesse d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du Seigneur pour le sanctifier. En d'autres termes, cesse d'être l'esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est-à-dire sois libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Cesse d'être l'esclave de ton désir de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est-à-dire cesse d'être l'esclave de ton corps et de celui de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol, cesse d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Oui, cesse d'être esclave de ton désir de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas. En effet, cesse d'être l'esclave de tes désirs ambition et frustration. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis l'Éternel ton Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Amen. Et je vous invite à prier maintenant, à la suite de ces 10 paroles. Seigneur, tu nous as appelés à la vie et à la liberté. Ta volonté est sainte, bonne et juste. Nous sommes incapables de mener la vie à laquelle tu nous invites sans l'aide de ton Esprit Saint. Tu nous avais promis le don de ton Esprit Saint. Pourtant, une étrange paralysie nous retient au seuil de cette vie nouvelle. Notre orgueil s'obstine à ne chercher qu'en nous-mêmes la force de te servir. Nous entendons bien ta parole, mais nous nous fions davantage aux analyses de notre intelligence qu'aux inspirations de ton esprit. Il serait pourtant si simple de nous laisser conduire par cette main invisible, de laisser retentir en nous cette voix qui te nomme Père, mais nous demeurons indociles, compliqués et raidis. Tout ce qui nous occupe, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous distrait, nous empêche de te laisser agir en nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons à toi, tel que nous sommes, pour que tu nous dépouilles de notre suffisance et pour qu'ainsi tu nous accordes une simplicité d'enfant, transparente à ta lumière. Reçois notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Comme le Seigneur aime que ses enfants ne restent pas couchés, mais qu'ils soient debout, nous écoutons donc ces paroles de grâce et nous voulons nous appuyer sur ces promesses pour poursuivre notre route. Ces paroles sont tirées de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort pour nos péchés, bien plus il est ressuscité. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et alors, frères et sœurs, fondés sur une parole, une promesse comme celle-là, c'est dans la joie et la reconnaissance que nous revenons encore au psaume 23 pour chanter notre bon berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'aime 77.
Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers.
Bonjour les enfants, voici l'histoire que j'aimerais vous partager ce matin. Hugo a 7 ans. Il vient de terminer la dernière semaine de cours avant les vacances de Toussaint. Et il est impatient de rentrer à la maison. En classe, lui et ses copains ont planifié un agenda de folie pour ses vacances. Et il veut le montrer à ses parents. Il se dit « Ah là là, maman et papa vont être drôlement fiers de moi. Eux qui ont l'habitude de me dire que je dois être capable de m'occuper parfois tout seul pendant qu'ils doivent travailler, eh bien là, ils ne vont pas être déçus. » Il est 14h55, la cloche de l'école sonne. Hugo se met dans le rang avec ses copains et guette impatient l'arrivée de ses parents. Dès qu'il les voit, il court vers eux. Et la petite famille s'engouffre dans la voiture pour rentrer à la maison. À peine rentré, Hugo sort de son sac le planning qu'il a établi avec ses copains pour le montrer à ses parents. « Maman, papa, voilà ce que j'ai prévu de faire avec mes copains pendant cette semaine de vacances. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, lundi, allez au cinéma et voir 3 films d'affilée et manger beaucoup de pop-corn avant de rentrer pour ne pas que maman doive cuisiner. Mardi, allez à la piscine avec les parents de Geoffrey et trouver un moyen de se faire inviter chez lui ensuite pour passer la soirée à jouer à Fortnite et ne pas vous déranger. Mercredi, bowling du matin au soir avec une séance de fitness avant de commencer, pour muscler mon biceps droit et avoir plus de force pour lancer la boule. Jeudi !» Doucement, Hugo est interrompu par sa maman. « Hugo, mon petit caramel mou, j'ai peur que cela ne va pas être possible. Tu sais, avec le virus qui se propage, le bowling, le cinéma et la piscine sont fermés. » Hugo reste figé quelques secondes, le temps que l'information fasse son chemin. Ensuite, il pleure. Et puis, il se fâche. « Purée ! On est libre de rien faire ! C'est pas des vacances qu'on va avoir, mais un séjour en prison !» Le papa de Hugo essaye de le calmer. « Tu sais, fiston, être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on le veut. Si on se limite à cette définition, on fait beaucoup de mal autour de nous ou on en fait beaucoup à soi, car on ne tient pas compte des autres, ni de ce qui est bon pour nous. Tu vois, Hugo, être libre, c'est être capable de vivre dans le projet de vie que Dieu a conçu pour nous. Tiens, écoute cette histoire. Un jour, un prisonnier fut relâché par ses gardiens. Mais ceux-ci, voulant le mettre à l'épreuve, le conduisirent au milieu d'un immense désert, plein de gouffres profonds et de montagnes infranchissables. Seules quelques sources, à peine visibles, donnaient de l'eau bienfaisante. Au bout de ce désert se dressait une ville où il faisait bon vivre. Les gardiens dirent alors au prisonnier « Tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. » Quelques heures après, un vieux sage, nomade, qui avait traversé souvent le désert, rencontra le prisonnier. Il lui dit « Tu sais, si tu veux vraiment profiter de ta liberté, traverse le désert et tu trouveras de l'autre côté une ville agréable, pleine de gens. Voici une boussole et une carte où sont marquées les sources qui te permettront de boire et les obstacles qu'il te faudra éviter. Bonne route !» Mais le prisonnier se dit « Je suis libre, c'en est fini des contraintes. Ce nomade veut m'imposer un chemin ? Je n'en veux pas. » Et il jeta la boussole et la carte. Alors, cet homme se perdit bientôt dans le désert. Il n'atteignit jamais la ville et finit par mourir de soif. Un an plus tard, les gardiens recommencèrent avec un autre prisonnier. Celui-ci rencontra le même nomade. Et tout joyeux, il suivit les indications de la boussole et de la carte. La marche fut longue, parfois difficile. Mais un matin, la ville se dessina à l'horizon. Après une dernière journée de marche, il put s'y installer et y vivre heureux jusqu'à la fin de sa vie. Tu vois, Hugo, être libre ne veut pas dire ne suivre aucune règle. Être libre veut dire être capable de se débarrasser de tout ce qui nous empêcherait de vivre la vie de bonheur à laquelle Dieu nous a destinés. C'est pour ça que nous devons être capables d'obéir à certaines règles. Dieu nous aime, Dieu veut notre bonheur. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pourquoi il nous a donné sa parole, pour qu'elle nous serve de guide, de boussole dans la vie, et que nous puissions être pleinement heureux. Et je pense que dans le cas présent, garder nos distances par rapport aux personnes que nous aimons et nous priver de choses que nous aimons faire est ce que Dieu attend de nous. Ce sera pour nous une manière de témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. Parce que nous aimons les autres, parce que nous voulons leur bien, nous devons tout faire pour éviter que le virus continue à se propager. Et puis, tu verras, Hugo, on fera quand même des chouettes choses ensemble pendant ces vacances. Voilà les enfants, mon histoire est finie. J'espère qu'elle vous inspirera pendant la semaine à venir. Je vous invite à présent à la prière. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier ? Seigneur notre Dieu, dans ta parole, tu nous dis que pour être véritablement libre, pour ne plus être esclaves du péché, nous avons besoin de renaître en ton Fils. Alors Seigneur, aide-nous à puiser force et assurance en lui. Aide-nous à le considérer comme notre boussole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre cette période de vacances entre les mains. Nous te prions de prendre soin de chacun d'entre nous, de guérir nos malades et de tenir à distance le virus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Prions avant la lecture et la prédication de la parole de Dieu. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'Esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte. Donne-nous de discerner dans ta parole, une invitation à la conversion, à inventer, à oser, à créer. Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé qui ne s'arrête pas à la surface des choses. Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, ouverte, aventureuse, capable de replacer toute chose dans un contexte plus large, sans esprit de système, sans désir de puissance. Cela, nous ne pouvons le recevoir que de toi, par ton esprit et au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ce matin, nous écouterons la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13.
Nous lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. »
Frères et sœurs en Christ, nous avions espéré que la situation sanitaire allait s'améliorer et voici que la pandémie repart de plus belle, nous contraignant au confinement. Il nous faut continuer à prier les uns pour les autres afin qu'à travers cette situation difficile, le Seigneur puisse nous aider à tirer le meilleur parti et surtout que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À propos du règne de Dieu, Jésus en avait parlé dans son enseignement et particulièrement vers les derniers moments de sa vie terrestre. Dans l'Évangile selon Matthieu, les chapitres 24 à 25 sont ceux où il parle de la fin du monde, de sa seconde venue et de l'instauration définitive et complète de son royaume ou de son règne. Les trois paraboles de cette section, chapitre 24, verset 36 à 25, verset 30, où il est question de la parabole du serviteur fidèle, la parabole des 10 vierges, la parabole des talents, ces paraboles appellent la communauté croyante à la vigilance dans l'attente du retour du Seigneur en gloire. Puisque le Seigneur n'est pas encore revenu, ce message demeure d'actualité pour l'Église aujourd'hui. Puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure, il faut donc se préparer à la parousie, un mot un peu barbare mais qui veut tout simplement dire à la manifestation du Seigneur en gloire. Non en calculant la date, mais en étant constamment à l'écoute des avertissements et recommandations du Seigneur et prêt à agir en conséquence. C'est clair comme l'eau de roche. Cependant, on est étonné de voir certains chrétiens se hasarder à imaginer quand la parousie pourrait advenir. L'enseignement du Seigneur semble tout indiquer qu'il n'y aura que deux catégories de personnes, celles qui seront prêtes et celles qui ne le seront pas. Le disciple doit donc toujours être prêt. Nous avons tout à gagner en prenant l'avertissement du Seigneur au sérieux. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que être prêt en pratique? Là, nous allons rejoindre la parabole des 10 jeunes filles. 10 jeunes filles réparties en 2 groupes, 5 insensées et 5 avisées, qui sont des amis de l'épouse. Cela ne vise pas les capacités intellectuelles ou l'absence de ces capacités quand on les appelle insensées ou avisées. Il s'agit d'ouverture et de fermeture spirituelle et religieuse. Le moment le plus important pour ces jeunes filles, ce qui justifie leur tenue, leur présence, c'est la rencontre avec l'époux qui va arriver. Les lampes sont des torches. On prend un bâton assez long, dont on entoure le bout avec un chiffon imbibé d'huile. Le jour de noces, la procession de la maison de la fiancée à celle de son fiancé a lieu après l'arrivée de l'époux. Souvent, elle se fait tard dans la journée ou à la tombée de la nuit. D'où le besoin de s'éclairer par des torches le long du chemin. Les torches en question sont en général portées par des jeunes filles non mariées. L'éclairage qu'elles permettent, ces torches, est abondant, mais généralement de courte durée. Voilà pourquoi les demoiselles d'honneur doivent avoir une réserve d'huile. À l'arrivée soudaine de l'époux, les demoiselles d'honneur se lèvent et apprêtent leurs torches. Dans cette parabole, les étourdis, ceux qu'on appelle aussi les insensés, se rendent compte à l'arrivée de l'époux qu'elles ne peuvent ranimer la flamme qui vacille de leurs torches par manque d'huile. Alors quand on lit cette parabole, certains ont été scandalisés par le comportement des 5 jeunes filles appelées avisées. Mais le partage de leur huile compromettrait la marche du cortège puisqu'il n'y aurait plus suffisamment d'huile pour tout le trajet. Ce n'est pas l'arrivée soudaine de l'époux qui leur a fait oublier de prendre leur huile, c'est l'imprévoyance irresponsable. Elles savent depuis longtemps qu'elles seraient dans le cortège et que sa marche dépendait en partie de leur préparation. Pourtant, elles n'ont pas pensé que la noce pouvait être retardée et ne se sont pas munies d'une réserve d'huile suffisante. Quelle folie! Et ce que Jésus veut nous dire dans cette parabole, Jésus nous avertit solennellement que ceux qui ne seront pas vigilants auront des comptes à rendre. La porte fermée dans la parabole est l'exclusion de la fête. Ceux qui ne se préoccupent pas de vivre selon les règles du royaume seront exclus du banquet eschatologique, c'est-à-dire du dernier banquet, le banquet de la fin, et par là de la présence de Dieu. Les contemporains de Jésus se glorifiaient de leur appartenance à Israël et de l'alliance que Dieu avait faite avec leurs ancêtres. L'alliance, pensait-il, les protégeait de tout danger. Or, ce sentiment de sécurité ne s'accompagnait pas d'œuvres qui montraient la réalité et la force de leur appartenance à l'alliance. D'où la mise en garde solennelle de Jésus. Ça, c'était donc pour la parabole elle-même. Mais nous pouvons nous poser la question, quelle est l'actualité pour l'Église de ce message que Jésus donne dans cette parabole? Ou en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire être prêt ou veillé? Eh bien, être prêt signifie s'acquitter de sa charge correctement. Il ne s'agit pas de rester tranquillement assis à attendre le retour du Seigneur, mais de se mettre au service des autres et d'accomplir cette tâche comme pour le Seigneur. Concrètement, Jésus veut dire, vous êtes époux, vous êtes père, vous êtes épouse, vous êtes mère, vous êtes fiancé, vous êtes ami, vous êtes parent, fils, fille, frère, sœur, voisin, citoyen. Et dans votre profession, vous êtes enseignant, ouvrier, employé, étudiant, membre d'une église, disciple de Jésus-Christ, témoin de Jésus-Christ, etc. Dans tout ce qui constitue votre identité sociale ou ecclésiale, Jésus veut dire « vivez pleinement, correctement votre responsabilité ». Assumez vos responsabilités comme pour le Seigneur. N'agissez pas avec négligence, avec paresse, avec nonchalance. Inversement, ne pas être prêt, c'est accomplir avec négligence sa vocation, ce à quoi on est appelé. Quant à veiller, veiller signifie donc s'engager dans un service actif, soutenu et responsable. Si vous êtes membre d'une église, engagez-vous en plus de ce que vous êtes par ailleurs dans un service actif, soutenu et responsable. Vous me direz, très bien, dit monsieur le pasteur, mais avec quelles ressources allons-nous accomplir tout cela? Eh bien, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que ce que Dieu commande, ce que Dieu ordonne, il en donne les moyens. Et ici, Dieu donne le Saint-Esprit. Et il dit, marchez selon l'Esprit et non selon la chair, et vous accomplirez ainsi la volonté de Dieu. Et en étant continuellement rempli du Saint-Esprit, nous pourrons ainsi être capables de veiller à chaque instant. La grande question qu'on se pose, c'est toujours comment être rempli du Saint-Esprit. Eh bien, voici schématiquement et brièvement le processus qui conduit à la plénitude de l'Esprit-Saint. Premièrement, il faut d'abord savoir qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est un commandement de Dieu. Oui, si c'est un commandement, c'est que c'est la volonté de Dieu, c'est voulu par Dieu. Et ce que Dieu veut, si nous le demandons, nous le lui demandons, il nous l'accordera certainement. Si c'est un commandement, si Dieu le veut, c'est le seul moyen de vivre la vie de Dieu, la vie de qualité qui vient d'ailleurs. C'est possible, c'est un privilège. Son absence manifeste toutes sortes de défaillances, l'absence des fruits de l'Esprit. Deuxièmement, il faut désirer ardemment vivre une vie de qualité supérieure. Et cela, Jésus le dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 7. Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Sans un désir ardent, on ne peut espérer grand-chose. Néanmoins, on peut creuser la soif et le désir d'une vie de qualité. Troisièmement, il convient de se placer devant Dieu tel qu'on est, sans artifice. C'est-à-dire, entrer en colloque avec Dieu. Laisser sa lumière éclairer toute notre vie, tout notre être. Âme, esprit et corps. Toutes nos dispositions intérieures, nos désirs, nos pensées, nos ambitions, nos projets, nos buts, nos actions. Accepter cette rencontre avec le Dieu Saint, se laisser saisir, se laisser imprégner par la présence de Dieu, par son amour. Accepter la confrontation avec le Père aimant, le Créateur, le Médecin, le Libérateur, le Sauveur. Conséquemment, quatrièmement, il faut confesser ses péchés, se vider, capituler afin d'être purifié, délivré. Parce que l'anthropologie biblique met en évidence la puissance du péché, sa domination, sa capacité de pollution, ses effets néfastes et ses sous-produits dont la culpabilité, les peurs, les idoles, le manque de perspective eschatologique, le légalisme, l'esclavage, toutes choses qui soulignent l'incapacité humaine à vaincre ses forces spirituelles par ses propres moyens et met en évidence le besoin indispensable, fondamental de l'Esprit Saint. Oui, car lui seul peut nous permettre de vivre cette vie-là. Sans lui, la vie chrétienne conduit à la dépression spirituelle et n'est donc pas, de ce fait, une bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cinquièmement, il faut demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Sixièmement, il faut croire qu'il honore toujours ses promesses. Et septièmement, il faut continuer à vivre sans crispation, vivre tout simplement dans la confiance et tous les jours. Frères et sœurs en Christ, dans quel état spirituel le Seigneur trouverait-il son Église s'il revenait aujourd'hui? Entendu, son Église dans laquelle nous sommes, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. L'Église n'est-elle pas, au moins en partie, préoccupée par plusieurs choses autres que les intérêts de son Maître? Ne répondons pas trop vite. Prenons le temps de réfléchir à cette question, à cette interpellation. Comment se vit la réalité du corps du Christ aujourd'hui dans une société de plus en plus individualiste, égocentrique, même ethnocentrique? Avons-nous conscience d'appartenir à un corps? Et comment l'expérimentons-nous? Connaissons-nous en tant que corps les intérêts du Maître de l'Église? Et comment œuvrons-nous ensemble dans l'accomplissement de sa volonté? Comment faisons-nous ensemble fructifier les dons et les talents qu'il nous a donnés? Quand on procède de cette manière, on prend conscience de sa propre responsabilité quant à la santé de l'Église concrète de Jésus-Christ et la nécessité de se préparer à la manifestation de Jésus-Christ dans son imminent retour. Autant des questions qui nous poussent finalement à la question cruciale, pourquoi sommes-nous Église de Jésus-Christ en ce moment-ci, là où nous habitons? Quels sont les intérêts de notre Maître? Ne nous endormons pas. Ne nous rassurons pas trop vite à bon compte. Le Maître revient certainement. Personne ne sait quand il adviendra. Qu'il nous trouve veillants et travaillants. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Frères et sœurs, l'Église est toute tournée vers le Christ glorifié qui vient bientôt. En attendant de voir le Christ glorifié, elle est en route, au travail, dans la lutte, dans le labeur. Elle a besoin de se refaire des forces pour se ressourcer. Entre autres, il y a la prière d'intercession à laquelle je vous invite à vous joindre. Prions. Seigneur, nous nous réjouissons de ta parole qui est la vérité. Nous te prions de nous sanctifier par ta vérité. Nous savons que tu reviens bientôt. Garde-nous du sommeil spirituel. Garde-nous de l'inconscience. Garde-nous de la suffisance de croire un seul instant que nous pouvons nous passer de ton esprit pour faire ta volonté. Fais de nous des mendiants de ton esprit, parce que depuis la Pentecôte, le don de ton esprit est promis à chacun d'entre nous, à chacune des communautés chrétiennes. Puisse ton Esprit Saint répandre la surabondance de ses grâces, de ses charismes sur ton Église. Puisse-t-il renouveler notre amour, notre zèle, notre enthousiasme pour toi à travers le service auprès de nos frères et sœurs en humanité. Seigneur, que ton Esprit nous donne une claire vision du message que nous devons délivrer, des tâches que nous devons entreprendre. Inspire à ton Église une prédication vraiment prophétique, une parole qui aille au-devant de l'espérance des hommes, que par notre témoignage d'Évangile manifeste sa puissance de résurrection, de renouveau. Esprit du Christ, mets dans nos cœurs l'amour du Seigneur et du prochain. Béni sois-tu, Seigneur, qui ne rejette pas ton Église lorsqu'elle cède à l'engourdissement. Nous plaçons devant toi ceux qui, dans la vie de l'Église protestante unie de Belgique, notre Église, de toute ton Église, dans notre pays, nous plaçons devant toi ce qui, dans notre service, est devenu stérile. Toi qui fais revivre, accomplis bien au-delà de ce que nous savons te demander. Que la foi en ta victoire nous pousse plus loin sur le chemin d'un service joyeux. Puisque les ruisseaux de Dieu débordent, puisque le don de la Pentecôte et cette eau vive qui nous est offerte en abondance détourne le désir profond de notre être de ces fontaines polluées que sont le prestige de la puissance, l'attrait de la richesse, la convoitise du plaisir, l'euphorie de toutes les évasions. Avive notre soif de justice, de ta justice à toi qui libère, de ta paix qui réconcilie, de ton amour qui comble notre attente. Apprends-nous, Seigneur, dans l'attente de ta venue, à partager les dons afin que les autres soient pour nous et que nous soyons pour les autres source de vie, source de bénédiction. Nous te prions pour notre pays afin que tu conduises ceux qui nous dirigent vers une solution durable pour tous les problèmes qui se posent à notre société, afin qu'ils atteignent le plus grand bien de tous, et particulièrement des petits, des pauvres, des faibles, des sans-voix. Reçois notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques minutes pour échanger les informations. C'est le temps donc des annonces. C'est reparti, comme vous l'avez remarqué, la maladie revient en force. Alors prions, prions pour l'état sanitaire du pays et du continent afin que le Seigneur nous accorde un soulagement et afin que des vies soient épargnées. Prions aussi que ce soit un moment où chacun et tous pensent à recentrer leur vie sur l'essentiel, c'est-à-dire sur Dieu, et que beaucoup se tournent vers Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur du monde. Les réunions ne seront plus en présentiel. Nous tâcherons, dans la mesure du possible, d'organiser les réunions de prière et les études bibliques en visioconférence aux heures habituelles. Et le lien vous sera envoyé par les canaux habituels. Quant aux autres informations sur la vie communautaire, vous les trouverez dans Écho du mois de novembre, notre bulletin paroissial du mois de novembre qui, en principe, vous a été envoyé au moins dans la version informatique. La pandémie s'installe et diminue notre voilure, mais la vie continue. L'Église a des engagements financiers à honorer. Continuons à soutenir l'Église et à lui permettre de respecter les 10 engagements financiers. Donc le numéro de compte pour votre offrande est sur le bulletin paroissial. Mais vos dons et votre offrande seront accueillis avec reconnaissance. Merci de continuer cette œuvre et ce soutien. Une autre annonce, c'est le jeune groupe chrétien Crazy Hope a sorti son premier album intitulé Processus. Cet album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, YouTube, Spotify, Apple Music, etc. Alors, dernière annonce, c'est juste un petit mot de remerciement pour rappeler que l'accompagnement musical de ce dimanche a été assuré par Manu, Nan, Jonathan et Raphaël Lukusa. Je les remercie en votre nom à tous. Et maintenant, nous arrivons presque à la fin de ce service rendu à Dieu. Nous recevons donc l'exhortation, la bénédiction et l'envoi. Voici donc l'exhortation. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de travailler, en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est à la deuxième veille qu'il arrive, ou à la troisième, et qu'il trouve cet accueil, heureux sont-ils. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du monde qui vient. Allons dans la paix du Seigneur, que le Seigneur par son Esprit Saint soit plus près de nous, plus près de chacun de nous. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, c'est le dernier cantique que je vous invite à chanter, Arc-en-ciel 639. Et bon dimanche et bonne semaine à chacun.
Plus
Sous